Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Vous savez ce qu'on dit de l'amitié? L'amitié, c'est connaître tous les défauts de quelqu'un et l'aimer quand même. Ah, avec Philippe Lellouche. Acteur, auteur, metteur en scène, réalisateur et présentateur d'émissions de télé, l'amitié, eh ben c'est encore plus simple. Parce que les défauts, on les cherche et on les trouve pas. Ce garçon est généreux, il est empathique, il est positif. Bref, c'est l'ami qu'il nous faut en cette période anxiogène et même quand elle ne sera plus. Et justement, Philippe Lellouche, eh bien en ce moment, on peut le retrouver sur RMC Découverte. Je dis en ce moment, mais en fait, il est à la tête de la 7e saison de Top Gear France, l'adaptation de la mythique émission britannique consacrée à l'univers des voitures. Émission qui a fidélisé tout autour du monde plus de 350 millions donc de personnes. Et Philippe Lellouche est également à la tête d'un nouveau programme en chair mécanique, toujours sur RMC Découverte. Donc, entre le théâtre, le cinéma et la télé, eh ben ça va faire court, une balade d'une heure.
Europe 1.
Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle.
Alors, cher Philippe Lellouche, vous avez eu plusieurs vies. On va évoquer tout ça, mais d'abord, la vraie grande popularité, elle vous est arrivée par la télé, sur le tard, on va dire vers 48-49 ans. Elle a une saveur particulière, la célébrité, à cet âge-là.
Oui, elle a la vertu de parent de fou. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas pire maladie psychologique que d'être beau, riche et célèbre à 20 ans.
C'est pas un cadeau la célébrité à 20 ans.
Bien sûr, hein. Je pense que j'ai beaucoup de peine moi pour les mômes qui sont d'ailleurs souvent c'est très difficile ils en sortent pas psychologiquement indemnes.
Ouais.
Non, c'est tellement un truc attendu que quand ça arrive à 48 ans, parce que quand même ce serait mentir que quand on démarre ces métiers-là, on s'en fout de la reconnaissance, c'est pas vrai, on cherche que ça.
Bien
Donc
sûr.
Le jour où elle arrive, on est plus soulagé que content. Mais on connaît les pièges,
ouais.
Et on sait surtout d'où on vient, voilà, toujours. Donc c'est un soulagement plus qu'une joie complètement dingue. Voilà.
Alors, vous avez toujours été cash. Bon, la franchise, c'est pas la vertu la plus répandue dans ce milieu, mais la franchise, c'est un petit côté qui même me suive, que je trouve très très revigorant. Donc, absolument rien à faire de pas avoir la carte, étant donné que lui, le public, vous adore.
Bah c'est gentil, oui, c'est un truc qui m'est passé depuis longtemps maintenant. C'est-à-dire que quand on démarre dans ce métier, on a envie de plaire à tout le monde, puis on se rend compte évidemment qu'on ne plaît pas à tout le monde. Après, on sait qu'on ne plaît pas à tout le monde, donc on s'en fait. Et après, on est très content de ne pas plaire à tout le monde, parce que ceux qui ne vous aiment pas, en général, ce sont ceux que vous n'aimez pas non plus. Donc
voilà.
C'est de l'honnêteté morale. Tant qu'à la carte, etc., moi j'ai rien contre, je suis ravi quand des gens l'ont et ça leur permet de faire des films et tout ça. Moi, ce qui compte, la seule récompense qui compte, effectivement, c'est celle du public. Et j'ai la chance depuis 20 ans maintenant au théâtre de faire des salles pleines. Et c'est la vraie récompense.
Bien sûr. Alors, vous dites des salles pleines, mais effectivement, vous êtes en fait parfaitement multicarte, Philippe Lellouche. Parce qu'au théâtre, au cinéma, à la télé, vous écrivez donc des pièces qui font d'énormes succès populaires. Vous réalisez, vous présentez des émissions. On va en parler tout à l'heure sur RMC Découverte. Pourquoi votre frère, l'acteur et réalisateur Gilles Lellouche, s'amuse-t-il à dire que vous vous êtes trompé de métier? Je voudrais savoir ce qu'on a oublié dans la liste.
Et Gilles, il dit ça parce que j'adore chanter. Voilà.
Ah voilà, on n'a pas parlé encore de musique.
Ouais, c'est ça. J'adore chanter. Alors, j'avais participé à un album qui s'appelle Forever Gentleman là, avec tout un tas de copains, avec Gad Elmaleh, avec Danny Briand, avec tout ça, où on avait fait les reprises de grands standards jazzy.
Tous avec de belles voix et un joli groove.
Merci. Et c'est vrai que j'aurais adoré ça. J'adore chanter. C'est un truc que je fais toute la journée, tout le temps, sous la douche, etc. Et donc, il me dit, mais pourquoi t'as pas fait ça?
Alors, voilà. Je vous dis, pourquoi t'as pas sorti d'album?
Parce que je sais pas, peut-être la trouille, parce que peut-être pas l'opportunité vraiment, mais j'y pense. En réalité, j'ai l'impression que longtemps on hésite parce qu'on s'est dit, on se dit souvent que dans ce métier, les gens vous catégorisent. En fait, c'est pas vrai. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai, que le public est bien plus malin que les professionnels veulent laisser entendre, et que quand vous êtes sincère, ils le sentent tout de suite.
Bon, bah alors, en attendant l'album de Philippe Lellouche, nous, on va vous retrouver à partir du jeudi 22 avril sur M6. Alors vraiment dans une émission dans laquelle vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie côté musique. Parce que voilà, c'est un prime adapté d'un format sud-coréen qui triomphe déjà dans 19 pays dont les États-Unis. Donc émission baptisée Show Me Your Voice. Et je veux savoir quel est le principe.
Ah, c'est extrêmement drôle. Alors, j'ai fait le premier numéro comme jury. Voilà, on est 4 ou 5 artistes. C'est animé par Issa Doumbia. Et il y a 12 personnes à peu près qui arrivent dans des tenues, des déguisements différents. Donc l'infirmière, la prof d'anglais, le garagiste. Donc ils ont un costume.
Ouais.
Et on doit deviner qui sait chanter et qui ne sait pas chanter. On joue pour des gens qui, eux, jouent vraiment de l'argent.
C'est-à-dire qu'il faut débusquer, en fait, les rois du playback.
Et exactement, mais pas seulement, parce qu'ils sont malins.
Qui peuvent être des imposteurs ou pas du tout.
Exactement, qui peuvent être tout à l'heure. Et je me suis gouré tellement dans cette émission. C'est tellement drôle. Ils nous induisent en erreur en permanence et on doit deviner qui chante ou qui chante pas. C'est extrêmement drôle à faire et j'imagine que ça doit être très drôle à regarder.
Bah, certainement. Donc le rendez-vous est pris, Philippe Lelouch, le jeudi 22 avril devant M6 pour Show Me Your Voice. Mais sur RMC Découverte, eh bien, ce sont vos propres émissions que vous animez. Elles aussi, donc, adaptées de formats cultes, comme l'émission anglaise Top Gear, où on pilote des voitures absolument démentes avec la plus grande liberté, ou plus récemment, En Chère Mécanique, où on refait une beauté à des voitures qui seront vendues aux enchères. Alors, on va parler de ces deux émissions qui rassemblent un nombre impressionnant d'amoureux des voitures donc sur cette chaîne. Mais juste avant, petite question qui fâche. De plus en plus, on chasse les voitures de la vie des gens. Hein. Et sur les nationales, d'ailleurs, on peut rarement rouler à plus de 70 km/h. Cette haine de la voiture, c'est une aberration, en fait.
Bah, la haine, tout court, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'on est dans cette époque-là de la haine. Voilà. Et j'espère que ça va vite bouger. Moi, j'ai l'espoir que ça va changer. Je pense qu'on est au bout d'une vague, là, qui va commencer à revenir en arrière, j'espère.
Ah, comme... Je vous trouve très optimiste.
Oui, je le pense, parce que c'est devenu... tellement fou, c'est-à-dire qu'il y a tellement un vrai problème d'expression pour les gentils. Et tout est devenu manichéen, noir ou blanc, alors que c'est ce qu'on aime dans la vie, c'est l'expression de toutes les couleurs, l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel-là, il n'existe plus.
Donc mais c'est... alors, très concrètement, par exemple, pour le sujet voiture, vous dites par exemple que la pollution automobile sur l'ensemble de la planète ne représente même pas 20% de la pollution mondiale totale.
Ce qui est vrai. Et il y a un acharnement aujourd'hui complètement délirant, mais comme on s'acharne sur les chasseurs, comme on s'acharne sur les fumeurs, comme on s'acharne... C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a le mec qui est en voiture est un pollueur et donc n'est pas éco-responsable, etc., etc., etc. Donc j'entends tout ça, le monde est en train de changer, et sûrement pour le mieux, en tout cas je le souhaite pour nos enfants. Maintenant, le mépris et la haine dont vous parliez me semblent complètement déraisonnés et déraisonnables. Voilà, et sur la voiture... C'est surtout encore, moi je veux bien imaginer que le moyen de locomotion du passé, c'est-à-dire le vélo, va être celui du futur, mais j'ai du mal à le croire. Et puis tout le monde ne peut pas rouler en vélo, donc tout
absolument.
Ça fait partie d'un snobisme assez épouvantable que d'imaginer que tout d'un coup on va venir de Versailles pour bosser à Paris en vélo, voilà, ou qu'on va aller de Créteil à Paris en vélo. Non, c'est pas possible.
Vous l'avez compris, c'est vraiment avec un homme de conviction qu'on va cheminer cet après-midi. Alors voilà, on se retrouve tout de suite après une très courte pause avec Philippe Lelouch pour parler de ses passions, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, la mise en scène, l'écriture et les belles voitures.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Philippe Lelouch, vous présentez donc depuis 2015, sur RMC Découverte, le show automobile le plus déjanté du PAF, qui est l'adaptation d'une émission britannique culte, rassemblant 350 millions de téléspectateurs dans 214 pays. C'est Top Gear. Alors la recette du Top Gear à la française, qui est en train de devenir une référence, paraît-il, dans énormément de pays, grâce à vous et votre équipe. Et bien la recette du Top Gear à la française, c'est laquelle ?
Bah, c'est de s'être libéré assez vite du modèle anglais qui n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'on est devenu un peu référent maintenant en Europe, parce qu'on existe depuis longtemps maintenant, et on a créé notre propre patte, mais c'était pas difficile.
Votre propre Bible ?
Oui, alors au début, la première année, on a beaucoup copié les sujets qu'avaient déjà fait les Anglais, parce qu'on cherchait nos repères, etc. Et très très vite, dès la deuxième saison, on s'en est séparés. Parce que d'abord ils sont anglais et nous pas, qu'ils ont un humour anglais et nous franchouillards. Et donc très vite on a compris le principe et on s'est détaché de ce modèle-là, même si on leur rend grâce d'avoir inventé cette émission qui est absolument géniale à faire. Il faut une dose d'enfance folle, voilà, pour faire ce truc-là. C'est-à-dire je me rends bien compte qu'on était trois et maintenant quatre avec Luc Alphand à retourner dans l'enfance immédiatement. On nous offre des jouets grandeur nature, quoi, des voitures qui marchent et avec lesquelles on fait les fous comme on arrivait de le faire quand on était enfant.
Exactement. Alors, Philippe Lelouch, vous prétendez être nul en mécanique. Ce qui vous fascine, ce sont en fait les belles voitures et le symbole de liberté surtout qui va avec, c'est ça.
Parce que je fais partie d'une génération où on avait le permis, moi qui étais un petit banlieusard, puisque je vivais à Fontainebleau, enfin j'ai grandi à Fontainebleau. À 18 ans, on avait tous le permis, parce que c'était le seul moyen de pouvoir se déplacer libre. Et en fait, c'est ça qui... Oui, pour moi, la voiture est un symbole de liberté. C'est-à-dire qu'on peut se dire, allez Isabelle, on s'en va. On prend la route là, maintenant, et on va là. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus
comme
magique
dans la vie. Comme dans les films de Claude
Sautet. Exactement.
Voilà. Bon, alors, Philippe, c'est la BBC, donc maison mère du programme, qui vous a choisi ?
Oui. Alors, tout à
c'est
la
chic.
Fin. C'est très chic. C'est tout à la fin. Ils avaient fait un long casting qui a duré. Ils ont vu des centaines et des centaines de gens.
C'est pas vrai.
Ils voulaient vraiment. C'est très important, le trio d'animateurs. Et à un moment.
Ils voulaient un pilote, peut-être, au départ.
Oui, voilà. Ils ont fait des journalistes sportifs, beaucoup.
D'accord.
Des journalistes auto. Et puis, ils sont arrivés un jour à moi. Par un biais un peu curieux, et je leur ai dit, mais moi, volontiers, mais je ne sais pas animer une émission de télé, et puis surtout, je n'y connais rien en mécanique. Ils m'ont dit, non, on s'en fout, viens essayer. Bon, et puis j'ai essayé. Évidemment, je crois que j'ai dit ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire que voilà, je faisais mes commentaires en voiture, et ça les a fait rire. Ils m'ont dit, bon, bah, ils m'ont revu une deuxième fois, avec plein de gens encore.
Et avec le contrat en poche.
Et avec le contrat en poche, ouais, ouais, c'était un peu ça.
Alors,
ouais.
Vous avez passé votre licence de pilote,
ouais.
En étant coaché par Jacques Lafitte.
Exactement.
Waouh! Donc
ouais,
maintenant, sur les circuits, vous êtes une terreur.
Alors, je ne suis pas au niveau de Bruce et de Luc Alphand, mais on se débrouille. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que, comme dans tous les métiers, il y a ceux qui ont du talent et qui n'en ont pas. Moi, en pilotage, je n'en ai pas particulièrement. Et Bruce ou Luc, qui sont des vrais pilotes, ils en ont. Et en fait, le talent me fascine.
Mais que vous manque-t-il? Ils sont peut-être plus audacieux,
sens,
c'est ça?
Non, sens, ils ont, oui, probablement plus d'expérience, mais ils ont les pilotes, comme les grands coureurs de ski d'ailleurs, ils ont un sens de la trajectoire. C'est-à-dire
ouais.
qu'ils voient le raccourci. Moi, je le vois pas forcément. Ils savent quelle courbe faut prendre, comment faut
oui,
la prendre,
selon
etc.
la vitesse et tout.
Et
donc
ça, c'est un talent. Vraiment. C'est-à-dire que c'est...
C'est une projection mathématique
exactement.
aussi.
Ils ont ça d'instinct.
Philippe Lelouch, donc, depuis 6 ans que vous présentez Top Gear France, vous avez fait des choses, j'imagine, complètement improbables avec ces voitures. Et vous êtes allé d'ailleurs tourner souvent à l'étranger.
Ouais.
S'il fallait choisir 2 ou 3 souvenirs totalement déments, ce seraient lesquels?
Alors, le Japon... Parce que c'était complètement dingue, ça
avec
c'est sûr.
Avec les empilements d'autoroutes sur 8 étages d'autoroutes qui se croisent dans tous les sens.
C'est
enfin,
ça,
on est
Tokyo,
déjà en,
qui est une espèce de ville de Blade Runner là, complètement folle. Et puis la campagne japonaise avec qui n'a plus rien à voir. Donc le Japon, c'est évidemment. L'Écosse, parce que c'est juste sublime, c'est un des plus beaux pays que j'ai jamais vu dans ma vie. Quoi, l'Écosse,
c'est vrai.
Ah ouais. Ah c'est. On a pu faire des fois 50 km sans voir une maison. Enfin, c'est pas pour rien qu'ils tournent tous
les
James Bond
et
les rivières saumonées, etc. Donc tout d'un coup, on se dit, tiens, je vais vivre là. Parce que de toute façon, on se dit, à chaque fois, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on trouve un endroit géant, on se dit, faut vivre là. Ouais, faut que je vive
là. Quand même, les hivers sont rudes, hein, en Écosse.
Ah, voilà. Et même
alors,
les étés.
Pour un amoureux de la Méditerranée comme vous l'êtes,
ouais.
C'est un peu rude. Philippe Lelouch, est-ce que vous conduisez différemment depuis que vous incarnez Top Gear?
Oui, je vais un peu moins vite sur la. En fait, j'ai une impatience.
En fait, toutes les folies, vous les faites devant les caméras.
Voilà, on les fait tellement devant les caméras que. Et puis, c'est tellement encadré, parce que je précise pour les jeunes gens qui nous écoutent qu'il faut évidemment pas essayer de refaire ce qu'on fait, parce que nous c'est encadré, il y a une sécurité, etc. etc. Ça m'a passé un peu l'impatience sur la route pour aller vite, etc. J'ai peut-être l'âge aussi. Hein.
Et
voilà,
vous roulez en quoi, Philippe Lelouch?
Alors, je roule en Porsche, parce que c'était mon rêve de gosse. Et puis, mais quand je
elle
suis,
aime, oh, elle aime pas trop rouler à 40 à l'heure, hein, la Porsche.
Non, elle aime pas ça. Mais elle va pas forcément. Voilà, il y a un truc. Bah, il y a peut-être un côté crétin chez moi de garçon, quoi. C'est Florence Foresti qui disait, c'est pas dur. Un homme, il veut bouffer tout le temps de la viande et des frites et rouler en Porsche. Bon, bah voilà, je suis un
mais
peu.
Mais faut assumer.
Je suis un peu dans ce truc-là, voilà. Si vous voulez me faire un steak au poivre, des frites et une Porsche, et je suis heureux.
Ouais. Bon, alors, il y a une nouvelle émission, toujours consacrée à la voiture, qui est venue se greffer donc sur RMC Découverte. C'est Enchères Mécaniques. Alors ça aussi, c'est une adaptation ?
Non, ça c'est une création totale. Ça c'est un vrai pari d'RMC Découverte et de Jean-Louis Blot qui dirige la Warner et qui a dit on va faire ça. Et ça c'est vraiment... Alors ce qui m'a plu dans cette émission, non pas que ce soit encore une émission de voiture et que je veux me spécialiser absolument dans l'auto, c'est qu'en réalité j'aborde un sujet dans les interviews dans Top Gear qui me passionne à chaque fois, c'est je demande aux gens, d'ailleurs je vous inviterai Isabelle, je serai ravi que vous y veniez, quelle était votre première voiture et à quoi à vous l'associer. Et en réalité on se rend compte que la voiture est source de souvenirs.
Bien sûr.
Un rapport affectif entre un homme, une femme et sa voiture, et qu'on oublie souvent, dans laquelle il n'y a pas de dimension. Mais ma première voiture, je m'en souviens très bien, parce que j'ai embrassé ma première fiancée dedans, parce que l'autoradio avait pour moi une importance colossale, voilà, etc. etc. Et c'est mes premières vacances et tout ça. Et par la suite, d'ailleurs souvent, quand on vend sa voiture, ça fait un petit quelque chose. C'est pas, on s'en sépare pour la majeure partie des gens, elle a fait partie de votre vie, cette voiture. Donc, ce qui m'intéressait dans cette émission, de gens qui veulent retaper leur voiture et la vendre, c'est donc qu'ils y tiennent, parce qu'ils veulent la retaper avant de la vendre, il n'y a pas une démarche seulement mercantile. Et ce qui m'intéresse là, précisément dans cette émission, c'est de me raconter moi l'histoire que vous avez avec cette voiture.
Alors, c'est formidable, je prends la balle au bon, parce que dans cette émission, donc, qui s'appelle Enchères mécaniques, vous avez vendu par exemple une Ferrari mythique de 94 qui avait appartenu, alors je précise, une Ferrari 512 TR qui avait appartenu à Johnny, Ferrari qui n'est plus fabriquée, et donc la personne qui l'avait racheté à Johnny et qui s'en séparait sans franchement vouloir s'en séparer.
Alors, de mémoire, ça a été l'avocat, à un moment donné, de Johnny Hallyday, et il lui a racheté cette Ferrari, puisque Johnny n'en voulait plus. Il l'a gardée dans son garage, et puis il s'est dit, autant la vendre, elle ne me sert plus. Mais il ne voulait pas absolument la vendre. Mais il y a une carte grise avec Jean-Philippe Smet dessus, donc ça vaut de l'argent. Et donc, il y a un type qui a payé à peu près 3 fois le prix de cette voiture.
Pour la carte grise, juste, avec Jean-Philippe Smet.
Bien sûr, pour dire. Alors, il y avait un petit détail assez amusant, et je dois dire que ce détail, je l'ai regardé. C'est-à-dire qu'il y avait sur le tableau de bord, à un moment, des éraflures, mais très précises, à un endroit très précis, qui était presque du renfoncement dans le cuir. Et je dis au propriétaire, donc, qui a été son avocat, c'est quoi ce défaut-là? Il me dit, c'est les bagues de Johnny. C'est-à-dire qu'en tournant le volant, avec ses bagues, à chaque fois, il a raflé ce truc-là.
C'est une patine
et ça,
qui vaut cher.
C'est une patine qui vaut cher, voilà. Donc je
formidable.
Comprends le type qui a voulu se payer.
Mais que ça fait du bien de parler avec Philippe Lelouch, avec qui on se balade cet après-midi. Ne bougez pas, on est sur Europe 1. On y est bien, à tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Philippe Lelouch est mon invité, cher Philippe. Deux fois en interview. Ah, on va parler... On va parler d'émotions. Deux fois en interview, je vous ai entendu avouer, j'aurais dû profiter davantage de mon père. Ouais. Alors, que faisait-il dans la vie, ce père?
D'abord, c'était un héros. Un jour, mon frère, c'est pas de moi, mon frère a écrit, j'ai lu ça après, il a dit « on a passé notre enfance à regarder mon père comme un héros de cinéma ». C'est probablement pour ça qu'on a fait ce métier tous les deux, c'est possible. Il a fait 1000 métiers, de comptable à bijoutier, en chef d'entreprise, en PDG de société... de multinational, il a fait à peu près tout. Il était curieux, il était ambitieux, il était très intelligent et surtout très imprévisible. Il n'était jamais là où je l'attendais, même dans ses réactions. Alors c'est un... En fait, celui qui me fait le plus penser à mon père, et ça explique peut-être mon amour éternel pour cet acteur, c'est Lino Ventura. Voilà, ouais. Mon père, il avait ce truc-là de...
Donc deux modèles, père et Ventura.
Ouais, qui sont pas loin l'un de l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'il il avait...
Et joliment testostéroné.
Oui, et alors fallait pas le chercher. Hein. C'était pas... Voilà, quand il commençait à froncer les yeux, on la ramenait pas.
Mais vous non plus, faut pas vous chercher.
Oui, mais je suis plus rond que lui encore. C'est une autre génération. C'est-à-dire que c'était cette génération de bonhommes, quoi. Fallait pas les déranger quand ils bouffaient. Enfin, voilà, c'était des trucs. Voilà, et en même temps, avec cette humanité, il était sans compromis. C'est ce que j'admire le plus chez lui. Il n'y avait pas de compromis. Voilà.
Alors, vous en parlez magnifiquement de ce père, mais pourquoi avez-vous peu partagé avec lui?
Non, j'ai partagé pas assez.
Pas assez?
Oui, c'est qu'à un moment, quand on a 15 ans, on passe au travers de plein de choses. C'est après qu'on se dit, mais à ce moment-là, non, c'est aujourd'hui que je donnerais n'importe quoi pour aller boire un café avec mon père. Voilà, de plus entendre la voix de mon père est quelque chose qui sera tout, voilà, jusqu'à la fin de mes jours un traumatisme. C'est un modèle, voilà, il y avait plein de défauts dont je ne veux pas, hein, mais tellement de qualités que j'aimerais.
Alors, votre frère, le comédien et réalisateur Gilles Lelouch, a 6 ans de moins que vous.
Oui.
Bon, il y a des âges auxquels la différence compte. À 20 ans, par exemple, quand on a un petit frère de 14, bon, on n'est pas sur la même planète. À partir de quel âge avez-vous été vraiment complice?
Quand il a eu 17 ans. Voilà, ouais. Moi j'en avais 24 et là, ça commence. À vrai dire, on a toujours été très complices parce qu'on était tous les deux tout le temps. Et donc, évidemment, mon père et ma mère me disaient « occupe-toi de ton petit frère ». Emmène ton petit frère, etc. Donc, ce qui m'a pas toujours ravi. Hein. Qu'est-ce qu'il a pu m'emmerder? Mais on a été, en ce sens-là, on a été complices très vite. On a développé même un humour qui était une sorte de défense contre parfois l'austérité de mon père et tout ça. On a toujours été très complices. Mais on est devenu vraiment amis quand il, oui, c'est ça, quand il a eu 17, j'en avais 23. C'est ça, ouais. Et bizarrement, on a des trajectoires un peu parallèles, et alors qu'on s'était pas programmé pour ça.
C'est ça.
On s'est jamais dit, tiens, on fera ça et on fera ça tous les deux.
Voilà, alors, parlons des trajectoires. Philippe Lelouch, dans votre première vie, vous étiez assez loin des plateaux de cinéma, puisque vous avez fait des études de journalisme, et vous êtes devenu journaliste d'investigation, d'abord pour TF1 avec l'émission Reportage, puis pour la célébrissime émission Envoyé spécial sur France 2. On vous a enquêté sur quoi dans Envoyé spécial?
Alors, celui qui a été déterminant, c'est celui qui me vient en tête immédiatement, parce qu'il a été déterminant, parce qu'il a changé ma vie. J'ai fait une enquête, voilà, on y revient, sur, à l'époque, sur l'arrivée du karaoké en France. Voilà. Et j'avais découvert, et c'est, alors c'était, il y avait quelques endroits dans Paris où les gens allaient chanter, et j'avais surtout découvert des personnages qui avaient changé leur vie en chantant. Et donc j'avais les stars de karaoké, c'était le titre du reportage que j'avais fait, je m'étais intéressé à la vie parallèle de ces gens-là. Et là, c'est là que j'ai rencontré...
Et là, ouais. Alors, on redessine le décor, on est en 95, Philippe ouais. Lelouch, vous avez 28 ans, on est chez Castel, boîte mythique de l'époque.
Bravo.
Le reportage... terminé, toute l'équipe de tournage s'évapore, s'en ouais. va, il y en a un seul qui reste,
moi.
C'est vous,
ouais.
et il faut absolument nous raconter la suite.
Et ben, je chante, voilà.
Ouais, c'était pas
ça.
Prévu, hein.
Non, c'était
vous
pas
étiez
prévu.
Venu comme Géry avec la caméra sur l'épaule.
C'est ça, et bon, tout, voilà, c'est fini, il doit être 1h du matin, et puis je me dis, oh, on est bien, donc je vais chanter, et puis je chante. Et il y a une dame qui est là, qui me regarde chanter avec beaucoup d'attention, que je ne connais pas, et qui me dit « Ah, vous chantez bien, est-ce que ça vous ennuie de chanter une chanson avec moi ?» Je lui dis « Non, avec plaisir, donc on chante tous les deux. » Et puis elle me dit « Mais qu'est-ce que vous faites quoi ?» Alors je lui dis « Ben voilà, je suis journaliste et je lui explique ce que je viens de vous dire. » Et elle me dit « Vous pouvez me donner votre numéro de téléphone ?» Elle me dit « Moi, je suis agent de cinéma. » Et une semaine après, elle me rappelle, et elle me dit « C'est complètement dingue, je tourne avec elle en ce moment. » Elle me dit « C'est l'anniversaire de Sandrine Bonnaire, et j'aimerais que tu sois là. » Parce qu'on va aller au karaoké chez Castel. Je voudrais lui montrer ça et je voudrais que tu chantes avec moi. Et moi, je trouve que l'expérience est folle. Donc, je me retrouve à ce dîner.
Non, mais vous savez qu'il y en a quand même qui font le cours Florent, qui font le conservatoire.
Ouais, c'est ça.
Bon, et là on se fait repérer en train de chanter dans un karaoké ouais. chez Castel.
Ouais.
Alors, vous vous retrouvez donc à l'anniversaire de Sandrine Bonnaire.
Voilà, donc avec des comédiens et beaucoup de comédiennes. Et je suis très intimidé. Et elle dit à Sandrine, avec qui je tourne en ce moment, tu vas voir, Philippe, il chante super bien. Et donc, elle m'envoie chanter. Et là, je me dis, mais merde, alors donc je chante, et puis c'est jamais une punition. Et quand je reviens, elle me prend à côté d'elle, et elle a cette phrase que j'oublierai jamais, elle me dit, écoute, je sais pas si tu seras un jour une star, mais ce dont je suis sûr, c'est que t'es un acteur, et si tu veux, je te représente.
Mais c'est... Elle vous a représenté, finalement, ou pas?
Le lendemain.
Non, mais c'est extraordinaire, parce que, ouais. attendez, Philippe Lelouch, concrètement, personne, quand même, ne savait ce que vous donniez devant une caméra, parce
non.
que, bon, on avait remarqué une présence, un charisme, mais quand même, jouer. C'est autre chose.
Ouais. Alors moi, j'avais fait des cours de théâtre un peu à Fontainebleau. Parce qu'en fait, celui qui a été déterminant, c'est mon copain, je le salue s'il nous écoute, c'est Richard Anconina. Je me souviens de ce film Paroles et Musique. Voilà. Alors là, ça réunissait tout ce que j'aimais. Le cinéma, la chanson, puisqu'il joue de chanteur avec Christophe Lambert. Et en sortant de ce film, parce que j'étais dans une école à Fontainebleau qui était avec une école de filles, et j'étais avec des copines, dont une qui me plaisait beaucoup. Et en sortant, elles étaient toutes amoureuses d'Anconina. Et j'ai dit, mais je comprends pas. Alors, je dis non, parce que le beau gosse des deux, c'est Lambert. Elle me disait, non. Oui, Lambert est très beau, mais Anconina, il a un charme de dingue, etc. Et je lui dis, mais s'il passe dans la rue, tu le verras, tu vas pas te retourner sur lui. Et la fille me répond, celle qui me plaisait beaucoup, non, mais là, je l'ai vu en gros plan.
Oh.
Et donc, je me suis dit, bon, ben, faut que j'ai des gros plans dans ma vie.
Voilà, voilà.
Donc c'était, donc, parce que mon ambition, ce serait mentir que de vous dire que c'était Molière et l'art, etc. Moi, je voulais plaire aux filles. Voilà, c'était mon truc.
Donc, alors, 24 heures seulement après tout ça, cette femme devient votre agent. Mmh. Vous allez immédiatement annoncer à votre famille que vous
j'arrête
lâchez
ouais.
le journalisme.
Ouais.
Vous annoncez à la prod d'envoyé spécial que
j'arrête.
Il compte plus sur vous.
Voilà.
Non, c'est extraordinaire. Et puis la chance s'emballe très très vite, Philippe Lelouch, puisque quelques jours plus tard, au cours d'un mariage, alors décidément,
ah, mais vous savez
les
tout,
anniversaires,
comment vous savez ça,
parce mais que j'enquête.
Bravo.
Au cours d'un mariage, grâce à un discours improvisé, mais hilarant, donc devant les jeunes mariés, vous êtes repéré par une attachée de presse dont la sœur réalise la série Une femme d'honneur pour TF1.
C'est ça. En fait, quand c'était une copine d'enfance qui se mariait. J'avais connu sa tante quand j'avais 15-16 ans. Sa tante s'appelait Brigitte Sarraud et c'était l'attachée de presse à l'époque de France 2. Mais moi, je m'en foutais complètement à 15 ans. Voilà. Et elle me voit, elle me dit « Qu'est-ce que tu deviens ?» Et je lui dis en riant « Depuis une semaine, je suis acteur. » Elle me dit « Ah bah, tu vas appeler ma sœur. » Parce que ma sœur réalise.
Marion Sarraud.
Marion Sarraud. Et elle appelle sa sœur devant moi. Elle lui dit « Tu vas recevoir un de mes potes. » Et je vois que ça emmerde Marion. Elle dit, bon, alors, tu m'emmerdes. Et elle lui dit, oui, t'es ma petite sœur, une espèce de droit d'aînesse, donc tu le reçois, je te le demande. Donc elle me donne rendez-vous en bas de chez elle dans le 16e arrondissement de Paris, 3 jours plus tard, en me disant, j'aurai pas beaucoup de temps, j'aurai qu'un quart d'heure. On est resté 4 heures ensemble à table. Et elle m'a dit, bon, je tourne l'épisode 2 d'Une femme d'honneur dans 10 jours. Je te prends 6 jours. Et là, c'est la vraie chance de ma vie, parce que 6 jours de tournage, quand on ne sait pas ce que ça donne, quand on n'a aucune idée, c'est un pari complètement fou.
C'est extraordinaire, parce qu'en fait, ils ont tous eu le nez, personne ne s'est trompé, et voilà, votre carrière a démarré,
ouais.
parce que vous auriez pu soudain être pétri de trouille devant la caméra, vous retrouvant cerné par une quarantaine de techniciens. Soudain, quand on est immergé, or, vous leur avez donné exactement ce qu'ils espéraient.
C'était mieux que ça, c'était fou, parce que c'est... En fait, je me souviens très très bien, en plus c'était avec Alexandra, vous savez, celle qui jouait la petite sœur dans La Boum. Vous savez, la petite sœur de...
Voilà, absolument.
Qui est amoureuse de Claude Brasseur, voilà, qui a donc maintenant mon âge.
Et qui était ballerine à l'époque.
Et qui était ballerine. Elle joue ma fiancée dans le film. Donc je suis très impressionné, parce que je me dis, elle a vachement de carrière, elle a commencé quand moi je biberonnais. Et il y a toute cette technique. Et ma première scène est de nuit, je dois descendre, aller la retrouver près d'un camion. Et tout d'un coup, j'ai entendu, allez, moteur, action. Et quand j'ai descendu cette allée, je savais qu'au bout de l'allée, il fallait que je commence à jouer. Et que j'ai vu les techniciens et tout ça, je me suis dit, c'est à la maison, je suis à la maison, je veux faire ça toute ma vie.
Allez, on retrouve tout de suite Philippe Lelouch.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Dans le métier, on le surnomme le couteau suisse, parce qu'il sait tout faire bien. Mieux que ça même. Il joue, il écrit, il met en scène, il réalise, il anime des émissions. Bah oui, je reçois Philippe Lelouch. Alors, cher Philippe, vous avez un jour confié... Je crois que j'ai fait ce métier pour rencontrer mes idoles. Elle est jolie la formule. Qui étaient vos idoles ?
Il y en avait beaucoup. Richard Anconina, c'est le premier qui me vient en tête, mais c'est lui qui... C'est vraiment ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est ce film. Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Évidemment, Jean-Paul, qui est mon ami, j'ai cette chance. Claude Lelouch, parce que l'ironie du sort fait que mon papa... à Gilles et à moi, s'appelait Claude Lelouch, ce qui est quand même complètement fou.
Ouais.
Donc par homonymie, peut-être, sûrement, on a commencé par regarder ces films.
Et Claude Lelouch, vous participez d'ailleurs, et on va en parler tout à l'heure, à ce qui, théoriquement, est son 50e et dernier film.
C'est ça. J'ai la chance d'avoir un des rôles principaux, avec Gérard Darmon et Harry Habitant, et Sandrine Bonner, de ce film. C'est-à-dire, c'était mon rêve, c'était de tourner avec lui. J'en avais pas d'autres. Je dis ça, entre Lucas Spielberg ou Claude Lelouch, j'aurais pris Claude Lelouch. Donc voilà.
Mais alors, parmi les comédiens, parmi tous ces monstres sacrés, lequel ressemble le plus à sa légende ? Vous avez dit Belmondo, par exemple.
Jean-Paul, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Jean-Paul, parce que l'humilité, la gentillesse, le talent, la joie de vivre, tout y est. Claude Lelouch, bien sûr. Gérard Darmon, qui est comme un grand frère pour moi, que je vois.
Oui.
Voilà, il y a plein de gens comme ça qui étaient des acteurs que j'admirais et qui sont devenus des amis. Christophe Lambert. Il y en a plein. Mais tout d'un coup, c'est complètement fou. Mais on ne croit pas que ça vous arrive. Je me souviens d'un des plus jolis souvenirs en ce qui me concerne. C'est Gérard Lanvin, que je connais très peu. Mais je me souviens d'un truc fou. Un jour, il était devant Europa, qui était la société de Luc Besson, et j'avais rendez-vous à ce moment-là pour un film là-bas. Et je le vois, et je me dis dans ma tête, oh, Gérard Lanvin, mais comme tout le monde, voilà, genre Gérard Lanvin, quoi.
Ouais.
Et je le vois regarder dans ma direction et faire coucou de la main. Donc je me dis, à qui il dit bonjour, et je me retourne. Mais vraiment, hein, sans aucune malice. Et il voit que je ne capte pas que c'est à moi qu'il est en train de s'adresser, donc il s'avance vers moi, et il me dit, bonjour, camarade. Et je lui dis, bonjour. Et il me dit, écoute, je t'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un truc ensemble un jour. Et je vous jure, Isabelle, qu'à ce moment-là, je me dis, il me confond avec mon frère. Oh. Voilà, je me dis, il sait pas que... Je lui dis, alors, du coup, je suis un peu maladroit, et je lui réponds, c'est gentil, merci. Puis je me barre, et j'appelle tout de suite Gilles, et je lui dis, je crois que Lanvin t'a confondu avec moi. Il me dit, non, t'es ma boule, j'ai tourné deux films avec lui, c'est très bien. Et donc, je réalise que c'est à moi qu'il s'adressait. Et donc, quand je l'ai revu la fois d'après, je lui ai dit à quel point ça m'avait touché, à quel point j'étais flatté. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer que Gérard Lanvin me connaisse.
Est-ce que vous avez tourné ensemble depuis ?
Pas encore.
Mais ça va arriver. Alors justement, on continue de dérouler le fil de votre carrière, Philippe Lelouch. Vous avez débuté au Café Théâtre, il y a un petit peu plus de 20 ans de ça, en vous écrivant un one-man show. Et un soir, qui apercevez-vous dans les premiers rangs ? Gad Elmaleh. Alors vous dites que jamais de votre vie, vous n'avez joué en étant aussi flippé.
Ah, c'était épouvantable, parce que Gad était déjà star. J'étais fou d'admiration pour son travail. Il avait déjà soulevé la France, c'est-à-dire que tout le monde aimait Gad Elmaleh, et à juste titre. Donc ce type-là vient me voir, donc je joue que pour lui.
Vous n'aviez pas été prévenu ?
Pas du tout. Bon. Il vient avec son père, je m'en souviens comme c'était hier, et moi, la salle est repeinte.
Vous l'avez aperçu en étant sur scène, au bout de combien de temps? Vous étiez déjà...
Tout de suite. Il est venu avec une casquette qui est quand même le meilleur moyen que je le repère, même s'il voulait se cacher.
Oui, parce qu'il croit toujours sous sa casquette,
personne ne le reconnaît. Oui, bien sûr. Donc, au troisième rang, et puis voilà, j'ai joué pour lui, et à la fin, j'ai eu la chance qu'il aime le spectacle, et à la fin du spectacle, il est venu me voir en me disant c'est vachement bien et tout, donc j'étais super content, et il me dit... Écoute, je joue à Lyon, à la Bourse du Travail, salle dans laquelle j'ai joué plein de fois après. Il m'a dit, dans quelques semaines, ça te dirait de venir faire ma première partie? Donc j'ai dit, évidemment oui. Et puis voilà, est née une amitié folle.
Et
voilà.
Gad, vous l'avez mis en scène au Théâtre de la Madeleine, récemment.
On a joué tous les deux l'année dernière.
Vous avez joué la pièce L'Invitation. Mais alors, je reprends dans la chronologie. Bon, la vraie popularité, Philippe Lellouche, celle vraiment qui fait que les théâtres sont pleins à Paris comme en province... Vous l'avez découverte en écrivant des pièces que vous avez mises en scène, jouées avec des comédiens qui, au fil du temps, ont constitué autour de vous une sorte de bande, une troupe, mais vraiment faite de potes, qui étaient de toutes les aventures de votre vie, c'est-à-dire Christian Vadim, David Brécourt et Vanessa Demouy. Au départ, il paraît que le milieu du théâtre ne croyait pas en vous.
Ah non, bah là,
la première pièce, on vous l'a refusée, c'est ça ?
Partout. C'est-à-dire que personne n'en voulait, en disant « David Brécourt, il vient de Sous le Soleil, Vanessa Demouy de Classe Mannequin, Christian Vadim, s'il avait du talent, ça serait, et Philippe Lellouche, personne ne le connaît. » Voilà, c'était en gros ce qu'on entendait. Et puis on a eu du pot parce qu'on avait un copain qui était un peu le bras droit du patron de la Comédie de Paris, qui est une petite salle de 200 places, et qui nous aimait bien, et qui a poussé, en disant « il n'y a rien d'autre, alors on va les prendre eux ». Donc le mec a dit « oh, d'accord, mais on les prend, mais alors il loue la salle, hein, parce que moi je ne veux pas du tout rentrer en coproduction avec ce truc-là, ça ne marchera pas ». Et là, il y a eu un enchaînement de circonstances complètement dingue. Coé nous invite et dit faut aller voir cette pièce. C'est voilà, et il se passe un truc. Et puis ça a été un carton monumental.
Mais monumental.
Et joué dans 17 pays.
Voilà, joué dans 17 pays, au point que vous avez dû écrire une suite à cette pièce baptisée Le jeu de la vérité. Ça, c'est complètement inédit au théâtre de donner une suite à une pièce. Parce qu'au cinéma, quand ça marche, on a les versions 2 puis 3, mais jamais au théâtre.
On était tellement... c'est mignon parce qu'on se rendait compte de rien. Je vais même vous dire, Isabelle, l'affiche de théâtre, on l'a transformée. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à faire une affiche de théâtre qui ressemblait à une affiche de cinéma. C'est-à-dire à se mettre tous les trois... avec Vanessa qui était dans le fauteuil devant nous, etc. Maintenant, à l'époque, les affiches de théâtre, il y avait juste le nom des acteurs et le titre.
Maintenant,
nous,
ils font
on a
tout
fait
ça.
Une photo... Et maintenant, tout le monde fait ça. À telle enseigne, c'est que moi, je me dis, tiens, il faudra revenir à l'ancienne méthode. Voilà, donc c'est... On a vécu cette aventure complètement folle. Donc, évidemment, à partir du moment où, bon, Vanessa Demouy, c'était mon épouse, donc c'était assez logique que j'ai envie de travailler avec elle, et mes deux potes. Et à partir du moment où ça a fonctionné, surtout avec les handicaps qu'on nous a reprochés au départ, il était hors de question que je joue avec d'autres après.
Philippe Lellouche, il paraît qu'en Russie, où vos pièces s'exportent, en Russie, vous êtes une vraie star, vous arrête dans la rue.
Oui, alors ça c'est incroyable. C'est-à-dire que la pièce Le jeu de la vérité, ça a commencé avec ça, est interprétée en Russie, parce qu'ils la jouent encore, depuis 20 ans, alors ils jouent pas comme nous, ils jouent de temps en temps les Russes. Voilà, c'est pas tous les jours, toute la semaine, etc. Ils vont jouer une fois par mois là, une fois par mois là, mais dans des théâtres de 6000. Donc c'est complètement dingue. Et la star russe des acteurs qui s'appelle Gosha Lyashenko, qui est l'équivalent de Brad Pitt en Russie, si vous voulez, joue mon rôle dans la pièce. Donc c'est lui qui l'a rendu si populaire. Et du coup, maintenant, les pièces depuis en Russie, toutes mes pièces sont traduites. Donc c'est très drôle, mais c'est très flippant, parce que la première fois que j'y suis allé, j'avais devant le théâtre qui était immense, à la russe, vous voyez, il y avait une photo de moi de, je sais pas, 6 mètres par 7 mètres, j'avais l'impression que j'étais mort, donc c'était très bizarre.
Le nouveau Brad Pitt.
Avec mon nom en russe que je sais pas lire. Voilà, donc c'est toujours, c'est surtout tellement flatteur.
Ça doit être très joli, écrit en écriture, cyrillique, le Philippe Lellouche.
Que je sais pas lire, en fait, je vois qu'il y a mon nom, mais j'arrive pas à lire l'autographe. Mais ce qui est phénoménal et ce qui est excessivement touchant, c'est de se dire un truc qu'on a écrit des fois en caleçon, dans sa cuisine, des répliques ou machin, que tout d'un coup, ça fasse rire les Russes. C'est-à-dire que c'est là où on se rend compte que le rire,
l'universalité du rire.
Voilà. Mais ça, c'est le plus jouissif que je connaisse.
On retrouve tout de suite Philippe Lellouche.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Philippe Lellouche, deux frères, acteurs et réalisateurs, c'est pas commun. C'est pas fréquent. Bon, votre frère Gilles Lellouche, plus jeune que vous de 6 ans, a une impression de filmographie, il a réalisé Le Grand Bain, qui a eu 9 nominations au César. On a l'impression de l'extérieur que, en fait, vous ne jouez pas sur les mêmes terres, comme si chacun avait choisi son précaré. Vous, c'est le théâtre, la télévision, votre frère, le cinéma. Je voudrais savoir quel genre d'émulation il y a entre vous deux.
Ah, c'est marrant, parce que, mais on se le dit souvent, on l'a pas fait
exprès. Je le ressens ainsi.
Non, mais vous avez raison, mais c'est comme ça. On s'est pas dit, tiens, on se délimite, ce qui serait être même très étonnant et puis surtout très prétentieux. Ça s'est fait comme ça. Mais on en parle tous les deux souvent, mais on parle assez peu. C'est-à-dire qu'on devient très vite débile dès qu'on est tous les deux. C'est-à-dire qu'on pense qu'à emmerder ma mère, à lui faire des blagues. On parle très peu de métier avec Gilles. C'est très étonnant. Évidemment, quand on est dans la rue tous les deux, les gens nous reconnaissent et tout ça, ça leur fait plaisir, on est content, mais donc des fois on se dit, alors si, il va me dire, tiens, là par exemple, il m'a appelé en disant, c'est épouvantable, j'ai envie de chialer tous les jours parce qu'il prend 20 kilos pour jouer Obélix.
Oh.
Et donc, grossir, qui est quand même déjà notre angoisse.
C'est votre frère qui va jouer Obélix.
Ouais, c'est Gilles qui va jouer Obélix. Donc, et c'est pas une petite gageure hein, de passer derrière Gérard.
Non, mais dites, attendez, prendre 20 kilos, j'espère qu'il est suivi par plusieurs nutritionnistes,
alors,
parce que...
Oui, hein, et puis en plus, il fait de la muscu 2 heures par jour, parce qu'il faut qu'il soit gros.
Pour les artères, c'est
musclé.
Pas terrible. Hein.
Voilà, donc il me dit, quand j'entends le coach sonner à la porte, j'ai envie de chialer. Il me dit, tous les jours, j'en peux plus. Donc voilà, on va se parler de choses comme ça, on va dire, tiens, c'est quoi tes projets, je vais faire ça, mais on part rarement, c'est rarement plus long que ça. Voilà, bizarrement. C'est un truc dont en famille, on ne parle pas.
Vous avez, en fait, rarement joué ensemble, à part dans le film Narco, en 2004.
Oui, qui est son premier film.
Voilà, c'est particulier de se retrouver embarqué avec son frère acteur dans la même aventure.
C'est particulier parce qu'on rigole immédiatement. Voilà. C'est-à-dire que on rêve, hein, un jour, de faire un truc tous les deux. Bon, il faudra jouer 2 frères, hein, parce que ce sera difficile de faire penser qu'on est autre chose. Mais on a des crises de fou rire idiotes, parce qu'évidemment, je le vois jouer, c'est mon petit frère. Lui, il me voit jouer, je suis son grand frère. On sait très bien l'un et l'autre quand on joue. Donc il suffit qu'il y en ait un qui fasse un tout petit truc qu'il ne faut pas faire pour que l'autre se foute de sa gueule, etc. etc. Mais c'est pas... On est très complices dans la rigolade, dans l'humour, dans, évidemment, l'amour fraternel, mais quand on... Bon, le week-end, souvent, quand on est ensemble, il y a les enfants, etc. Donc on est des papas et des tontons. Quoi.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Le fait d'avoir été, pendant plusieurs années, un journaliste d'investigation, et je rappelle, pour des émissions emblématiques comme, par exemple, Envoyé spécial, est-ce que ça induit une certaine manière d'écrire pour vous ?
De regarder.
De regarder.
Mmh. Il y a quelque chose de... Alors, est-ce que c'est l'un qu'entraîne... Je ne sais pas par où ça commence. Est-ce que c'est parce qu'on aime les gens qu'on a une façon de les regarder qui est journalistique, ou est-ce que c'est parce qu'on a une âme journalistique qu'on aime les gens ? Enfin, je ne sais pas comment ça commence.
C'est très imbriqué.
C'est très imbriqué tout ça, mais je sais qu'il n'y a rien de plus passionnant dans la vie que l'autre. Un jour, j'avais une idée de reportage comme ça, sur... En fait, je pense que chaque vie mérite un livre. Voilà. Donc, quand on peut ouvrir ce livre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qu'on lui demande de se raconter, c'est toujours extraordinaire, parce qu'il a vécu des choses que vous ne pouvez pas soupçonner. Moi, souvent, je regarde une vieille dame dans la rue, et je me dis, elle a été amoureuse. Mmh. Elle a été une jeune maîtresse. Elle a écrit, elle a dû s'enflammer, etc. Et aujourd'hui, elle marche courbée dans la rue, etc. Est-ce qu'elle y pense encore ? Voilà, tout ça me passionne. Donc, à partir du moment où on aime les gens, on a envie d'aller chercher. Et puis, comme on va chercher, et puis souvent, ils vous inspirent.
Eh bien, je reprends votre phrase. Il n'y a rien de plus passionnant que l'autre. Et justement, on va parler d'amitié, Philippe Lelouch, parce que votre vie, elle est très structurée par l'amitié, par la bande des copains qui vont de Christian Vadim à notre actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Je voudrais savoir, c'est en le mettant en scène au Théâtre de la Madeleine, quand il racontait donc les grands procès historiques, que vous êtes lié d'amitié avec Dupond-Moretti ? Ou ça s'est passé autrement ?
Ça s'est passé un peu autrement, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés une première fois dans un restaurant par un copain commun. Éric a une allure comme ça, toujours un peu glaciale, toujours un peu renfrogné, comme s'il était... Ouais, c'est sa protection.
Déjà une sacrée stature.
Ah oui, ça en termes de stature et de charisme, il se pose là, oui, ça c'est sûr. Mais donc il y a un truc qui passe. On sent qu'il y a un truc qui passe. Et puis on se retrouve sur le film de Claude Lelouch, Chacun sa vie.
D'accord.
Et là, on passe du temps hors tournage ensemble. On commence à aller dîner, à machin. Donc on est pré-potes, on pourrait dire, voilà. Et puis après, ça a continué. On s'est plus jamais quittés. Ça a été un truc...
C'est vous qui lui avez soufflé à l'oreille, ouais, de monter sur scène,
ouais,
c'est
ouais,
vrai.
Ouais. Oui.
Vous êtes directeur artistique du Théâtre de la Madeleine à Paris.
Ouais, ouais.
C'est un théâtre absolument magnifique.
Génial.
Et alors, quand vous lui avez soufflé cette idée, la première fois, il a réagi comment,
il
avec Dupond-Moretti?
Je voyais qu'il avait envie, mais il avait peur. Il me dit, attends, c'est pas du cinéma, là. C'est... Mais en fait, je l'ai vu, moi, plaider aux Assises, et j'ai tellement vu un monstre. C'est-à-dire, je me suis dit, mais quel... je sais même pas quel acteur pourrait faire ça. C'est-à-dire, sans une note, sans une hésitation dans la voix, en faisant toutes les liaisons, en maniant le ton, en fonction de ce qu'il racontait.
C'est-à-dire que c'est un grand avocat,
c'est
se doit d'avoir le sens de la dramaturgie.
Et de la dramaturgie, et de l'énervement quand il faut. Que ça, il doit avoir conscience du ton, de la justesse. Et,
voilà.
Ça doit sonner juste dans tout ce qu'il dit. Hein, donc, et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, écoute Eric, il faut que tu viennes au théâtre.
Alors, que ne connaît-on pas de Dupond-Moretti qui vous fascine, vous, Philippe Lelouch?
Son sens aigu de l'amitié, vraiment. Pour vous donner un exemple, c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Il a une vie qui est une vie de ministre.
Vous savez, quand on dit une vie de ministre, mais voilà, bon. Il l'est.
Il est sorti à... On était à l'autre bout de Paris. Il est venu... On était trois copains chez un copain. Il est venu à minuit en sortant de l'Assemblée juste pour m'embrasser et me dire bon anniversaire. Voilà, c'est un geste auquel je suis excessivement sensible. C'est un type absolument délicieux. Et surtout, alors ce qu'on suppose, mais qu'on ne sait pas, c'est que c'est un mec profondément épris de justice. Mais à un point, c'est-à-dire que même quelqu'un qu'il déteste pour tout ce qu'il représente, et je ne citerai pas de nom en particulier, et j'en ai pas d'ailleurs, il est capable de le défendre s'il le pense victime d'une injustice. Voilà. Et ça, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est un type qui est capable absolument de faire la part des choses. C'est comme ça. Probablement parce que sa vie a démarré sur deux injustices. Voilà, son grand-père est assassiné sur les voies de chemin de fer, personne n'enquête, on s'en fout.
Ouais.
Et la deuxième, c'est qu'il perd son père à 4 ans.
Ouais.
Son père à 24 ans, il meurt d'une leucémie. Bon, bah voilà. Donc les deux injustices qui ont fait démarrer sa vie ont fait de lui l'homme qu'il est, qui est un type absolument merveilleux. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ouais. Puis de toute façon, c'est mon pote, alors je ne peux pas voir le mal.
On retrouve tout de suite Philippe Lelouch.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
La 7e saison de Top Gear France vient de démarrer sur RMC Découverte. Franchement, c'est à ne pas rater. Je reçois son présentateur emblématique, l'acteur Philippe Lelouch. Cher Philippe, vous avez deux garçons de 26 et 17 ans. J'imagine que vous n'avez pas pu ne pas les emmener sur les tournages de Top Gear.
Ah bah
quoi.
Oui,
ils
non,
ont
ça,
dû
ça,
immédiatement le réclamer.
Non seulement ils l'ont fait, puis maintenant ils y travaillent de temps en temps.
C'est pas vrai.
Ouais, comme il y a les deux, j'ai fait deux timbrés qui veulent être saltimbanques, comme leur papa. Donc, il faut commencer. Donc, c'est bien de commencer en déroulant des câbles.
Mais c'est parfait,
voilà.
Mais bien sûr.
Donc, de temps en temps, ils viennent aider à la régie. Ils font les techniciens, de temps en temps, sur les tournages.
Alors, dans cette émission, on vous confie, on en a parlé un peu tout à l'heure, les voitures les plus puissantes du monde, en vous demandant d'avoir vraiment le mental d'un môme de 15 ans.
Ouais.
Vous n'êtes pas prêt de vous lasser.
Non, ça, je dois dire que c'est... Non, c'est... J'ai trouvé une phrase qui me plaît beaucoup la dernière fois, parce que j'ai effectivement, je fais partie, probablement, c'est un mal de ma génération, mais probablement un peu de mal à grandir, à vieillir, tout ça. Et j'ai lu une phrase de Chateaubriand qui est mon idole, et qui écrit « La sagesse est voisine du tombeau ». Voilà.
Oh.
Donc j'ai pas très envie d'être sage.
Comme je vous comprends.
Voilà.
Bon, c'est quoi le permis cascade?
Ah, le permis cascade, c'est d'arriver à faire des trucs que font les cascadeurs, donc ils nous apprennent à le faire. Et c'est de dire, bon, si vous arrivez à faire l'épreuve, eh ben on...
Mais attendez, permis cascade, parce que je pose la question, il faut que je dise aux auditeurs que vous avez passé le permis cascade.
Ouais. Oui, alors, c'est un faux permis, hein, on l'invente. Hein. Mais on s'est fait des petites frayeurs, hein, quand même. C'est pas traverser des
Par
murs
exemple.
En flammes, tout ça. Bah, c'est-à-dire traverser un mur de briques en flammes, avec une voiture... faire des tonneaux.
Mais vous êtes complètement fou.
Oui,
Philippe
Lelouch. Oui. Mais c'est tout ça. Mais en fait, c'est très rassurant. C'est exactement comme quand on monte en manège à Disney. C'est-à-dire que c'est faut évidemment pas essayer de faire ça tout seul quand on n'y connaît rien. Mais les cascadeurs sont quasiment des scientifiques. Ils savent à quelle allure faut rouler, comment faut prendre le truc, etc. Ça n'empêche pas qu'on a les jetons. Hein, je vais pas vous dire. Mais on se dit bon, les mecs, c'est leur métier. Ils font ça toute la journée. Ils savent comment faut faire. Par exemple, il faut traverser le mur de briques en flammes à 90. Le mec me dit, et ça je trouve ça génial, il me dit « donc il faut que tu sois à 110 ». Je lui dis « bah si tu me dis à 90 », il dit « non, parce que le réflexe humain, quand c'est tu vas arriver dans le mur, c'est de ralentir.
Donc,
de lever,
avec ton réflexe, tu seras à 90 une fois que tu touches
voilà.
les briques.
Et voilà, vous avez tout compris.
Waouh!
Donc voilà, c'est tous ces trucs-là qui sont vachement amusants.
Alors, quelle folie vous préparez pour les prochaines éditions de Top Gear?
Mais on ne sait pas. C'est ça qui est génial dans cette. Alors, si, il semblerait que pour la saison 8, on parte en Ouzbékistan. Voilà. Donc ça, c'est magnifique.
Qu'allez-vous faire en Ouzbékistan?
Et c'est ça qui est génial dans cette émission, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on prend l'avion, c'est un peu voyage en terre inconnue, vous voyez ce que je veux dire? On prend l'avion avec toute l'équipe, on est super content, on sait où on va, donc on a su quelle fringue prendre.
Mais on ne sait pas ce qu'on va y faire.
Mais on ne sait absolument pas ce qu'on va y faire, ni quelle voiture on va avoir. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, il y a une surprise. C'est la surprise en arrivant. Et ça, ils maintiennent cette espèce d'état comme ça de fébrilité, parce qu'évidemment que c'est payant à l'antenne.
Mais il faut être en forme, hein.
Ah oui, il faut être. Ouais, oh, bon, on l'est. Hein,
quand vous, on... Voilà, il ouais. n'y a pas de souci. Bon, on ne peut pas se quitter, Philippe Lellouche, sans que vous nous en disiez davantage sur ce qui, en théorie, sera le 50e et dernier film de Claude Lellouche, qui a pour titre L'amour, c'est mieux que la vie.
Ouais, voilà.
Bon, c'est tourné, on ne sait pas exactement quand il va sortir, mais alors, le scénario.
Ah, c'est complètement dingue. En fait, le scénario, il n'y a que Claude pour inventer des trucs pareils. C'est trois types qui sortent de prison, Harry Habitant, Gérard Darmon et moi, qui se sont aperçus aux balades, mais qui ne se connaissent pas vraiment, et qui prennent le même taxi, puisqu'ils sont libérés en 2000. C'est la grâce présidentielle de l'an 2000.
D'accord.
Donc en 2000, ils sont libérés, et comme ils sont libérés en même temps et qu'ils ne s'y attendaient pas, ils prennent le même taxi. Et alors, on est tous les trois en prison pour des raisons différentes. Gérard Darmon, parce qu'il avait inventé une manière de tricher au casino. Harry Habitant, parce qu'il était soupçonné d'aimer trop les femmes et de les faire travailler.
Et vous ?
Et moi, parce que j'enlevais des chevaux de course. C'est-à-dire, je demandais des rançons, voilà.
D'accord.
J'avais enlevé le cheval du Grand Prix d'Amérique, et évidemment, garder un cheval dans son appartement, c'est pas très simple. Donc voilà, on s'est retrouvé en tôle pour ça, et donc on va, et je demande d'aller sur je demande au chauffeur de taxi, puisque je suis le premier qui va déposer, d'aller sur un champ de course, et le type me dit, vous devriez jouer tel cheval, tel cheval, et tel cheval, et tel cheval. Et là, on lui demande s'il a des tuyaux. Évidemment qu'il a des tuyaux, parce que c'est Jésus-Christ, le chauffeur. Mais nous, on ne le sait pas.
D'accord.
Et donc, il va faire de nous des gens très, très riches, parce qu'on va gagner toutes les courses. Et en sortant,
mais que faire de cet argent? Le bien.
On va à la banque.
Ouais.
Et à la banque, on retrouve Jésus-Christ, mais qui cette fois-ci est une femme, qui va devenir notre banquière. Il s'est transformé, qui nous dit « Je crois que ce que vous avez de mieux à faire, c'est miser sur l'honnêteté. L'honnêteté, c'est le meilleur des placements. Donc, si vous étiez honnête, je suis sûr que vous gagneriez beaucoup d'argent. » Et donc, on va devenir scrupuleusement honnête pendant toute la durée du film. On va être très riche. Et notre seule quête, parce que c'est Gérard Darmon, notre aîné, qui nous dit l'amour, c'est mieux que la vie. Donc, notre seule quête, c'est de tomber amoureux.
Joli, joli, ça donne envie. Bon, j'imagine que tout le monde sur le tournage savait, c'était officialisé, que Claude Lellouche avait pris sa décision, ce serait son dernier film. J'imagine que forcément, ça induit une émotion, une intensité.
Mais on
sur
n'y
le...
croit pas. Isabelle, bon. On n'y croit pas. C'est-à-dire que la preuve, c'est que ce film qui doit être son dernier, il va être en deux parties. Donc on a tourné la première, on va tourner la deuxième bientôt. Donc déjà, c'est plus un dernier film, il va y avoir le 50 et le 51e en même
d'accord,
temps.
D'accord, d'accord. Donc les prochains seront des
c'est-à-dire
suites.
C'est-à-dire que Claude est un tel génie, il a une telle patate. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que j'ai des mecs de 30 ans qui sont plus endormis que lui. Quoi. Donc oui, il dit ça. Parce qu'il le pense quand il le dit. Mais il est tellement animé. C'est-à-dire que c'est un type qui est et en plus qui saisit chaque instant, il réécrit tous les jours son film en le faisant. Ce qu'il fait des chefs-d'œuvre absolus, parfois des films un peu moins réussis, mais en tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais de mauvais acteurs dans ses films. Non pas parce qu'il prend que des bons, c'est parce qu'avec lui c'est impossible d'être mauvais.
Vous savez quoi ? C'est terrible, on arrive à la fin de cette balade, c'est pas possible. En tout cas, une chose est sûre, ne changez rien.
Oh, mais vous êtes un amour, vous non plus.
Promettez-le
hein.
nous.
Vous
alors,
non plus.
Je rappelle que Top Gear et Enchères Mécaniques sont donc pour la 7e saison à retrouver sur RMC Découverte. Vous allez nous donner en septembre rendez-vous donc
au théâtre
dans
de la
le
Madeleine,
théâtre
avec plaisir.
Que vous dirigez, le Théâtre de la Madeleine à Paris, pour une pièce qui a pour titre
Je crois que ça va être la dernière chance.
La dernière chance. Et puis, au cinéma, on va vous retrouver donc dans L'amour, c'est mieux que la vie. Tout ça dirigé par Lellouche. Voilà, Lellouche, chez Lellouche.
Chez Lellouche, c'est ça.
Formidable, je vous
merci,
embrasse.
Merci, moi aussi, très fort Isabelle.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre. Bonjour les garçons.
Bonjour Isabelle. Historiquement Vôtre et nos héros fauchés en plein vol, c'est juste après les infos.